Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur le côté et trois pas de l'autre côté. On pourrait aussi le dire de la lutte du gouvernement contre le totalitarisme islamiste. Notre pays tergiverse, mais il faut bien dire que le problème est de taille. En effet, comment peut-on affronter une guerre qui ne dit pas son nom? Comment la France peut-elle répondre à la menace que lui jette cette idéologie? Nous recevons aujourd'hui dans notre studio l'un de nos commentateurs les plus réguliers, le géopolitologue Alexandre Delval, qui vient de publier un nouvel ouvrage volumineux, Les vrais ennemis de l'Occident, du rejet de la Russie à l'islamisation des sociétés ouvertes, tout juste paru aux éditions L'Artilleur. Alors comme le philosophe Karl Popper, vous nous dites que les sociétés ouvertes doivent apprendre à se fermer. Je vous cite, le pire risque de dissolution des sociétés pluralistes consiste à tolérer sur leur sol l'intolérance au nom de la tolérance. Alors pas de liberté pour les ennemis de la liberté, semblez-vous nous dire, est-ce bien cela ?
Je pense que Karl Popper n'a pas été compris depuis qu'il a été un petit peu pris en otage par les ennemis des frontières. Karl Popper n'était pas contre les frontières, il n'était pas contre la civilisation occidentale, il n'était pas contre le fait d'avoir une nation, mais il disait que les sociétés ouvertes, elles étaient essentiellement caractérisées par le pluralisme. Ça ne veut pas dire le multiculturalisme, ça ne veut pas dire qu'on laisse des valeurs opposées comme celles de la charia se développer. Le multiculturalisme n'est pas la même chose que le pluralisme. On peut être pluraliste mais avoir une seule culture. Et inversement, une société peut être multiculturelle sans être pluraliste. L'ex-Union soviétique était multiculturelle, mais n'était pas pluraliste. Donc je remets un petit peu en place certaines idées, et je montre que l'Occident trahit ses propres valeurs pluralistes lorsqu'elle les confond avec un multiculturalisme qui est le lit de l'islamisation. C'est pour ça que je parle en sous-titre de l'islamisation des sociétés ouvertes. Les sociétés ouvertes sont en train de s'ouvrir à tous les vents, notamment à celui de l'islamisme radical qui a un projet de conquête totalement hostile au fondement même de ces sociétés pluralistes. Elles sont donc en train de se suicider. Et pourquoi je parle de la Russie ? Parce que si nous n'avons pas vu venir l'ennemi de l'islamisme radical, que j'avais défini il y a 20 ans comme le totalitarisme islamiste, c'est également, pas seulement, mais c'est également parce que nous pensions, et nos stratèges de l'OTAN le pensent toujours, que la Russie serait l'ennemi principal. Et si la Russie est l'ennemi principal, eh bien on continue à l'encercler, à le contenir, ce que j'appelle le néo-containment. Comment ? Notamment avec la Muslim Belt. Et la Muslim Belt, ce sont un ensemble d'États musulmans ou même islamistes radicaux qui ont pour fonction, entre autres, hein, dans la stratégie occidentale de l'OTAN.
Quel pays dans cette Muslim Belt, cette ceinture islamiste?
Alors vous me direz, il y a des changements depuis la réconciliation Poutine-Erdogan, mais la Turquie a longtemps eu ce rôle au sein de l'OTAN de faire barrage à l'accès de la Russie dans les mers chaudes. Alors on pourrait me dire, récemment la réconciliation Erdogan-Poutine remet en question ceci, mais je pense qu'elle est relativement conjoncturelle. Et de toute façon, la Turquie fait toujours partie de l'OTAN, à ce qu'on en sache, hein. Et l'article 5 de l'OTAN pose comme condition une sorte de solidarité. Si un jour la Turquie était en guerre avec un tiers, nous devrions être solidaires de ce pays, ce qui pose un problème. On doit être solidaires stratégiquement d'un pays qui est membre de notre organisation de défense, l'OTAN, alors que ce pays aujourd'hui est l'un des pôles de l'islamisme radical et de la promotion du totalitarisme islamiste, pas uniquement terroriste avec Daesh, comme on l'a vu, ou Al-Qaïda ou Al-Nusra, mais elle est à l'origine d'un projet de d'islamisation, y compris soft. Vous savez, il y a la version hard et la version soft. Et on peut mentionner aussi le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Pakistan. Tous ces pays ont longtemps servi, pendant la guerre froide, mais également après, sans oublier aussi des organisations transnationales, comme les Frères musulmans, mais aussi le wahhabisme en général. Par exemple, la Tchétchénie. Le wahhabisme a été utilisé par les puissances islamiques de l'OCI, mais également par les occidentaux, pour déstabiliser la Russie. Vous savez, le but, c'était de discréditer un trajet d'oléoduc qui passait par le territoire de la Fédération de Russie, par la Tchétchénie. Et dans les années 90, on sait aujourd'hui que l'islamisme wahhabite, avec carrément des éléments saoudiens, jordaniens, qui venaient directement de Médine, formés par les Saoudiens, sont allés manipuler les Tchétchènes pour les tourner contre la Russie. Et d'où aujourd'hui la réponse de Kadyrov. Kadyrov, le président de la Tchétchénie, et vient d'une confrérie soufie qui est opposée aux wahhabites. En gros, les wahhabismes ont été utilisé comme un bélier par les Occidentaux et leurs alliés salafistes du Golfe pour déstabiliser la Russie, pour lui faire perdre des avantages stratégiques. Et malheureusement, cette stratégie, elle a continué après la fin de la guerre froide. On peut comprendre pendant la guerre froide qu'on ait utilisé l'islamisme contre l'ex-URSS, mais malheureusement, cette stratégie pro-islamiste continue d'être utilisée par un certain nombre d'États occidentaux, notamment les anglo-saxons, pour affaiblir la Russie ou ses alliés. En Syrie, les Occidentaux aident des islamistes. En Libye, en Libye, les Occidentaux, notamment les Anglais et les Américains, aident et arment des frères musulmans et même des salafistes combattants, tandis que la Russie est du côté plutôt du général Haftar. Donc on voit bien que les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis la guerre froide. L'Occident globalement continue à aider des islamistes contre l'ennemi principal qu'est la Russie. Et c'est pour ça que je lis le dossier de la guerre froide avec la Russie, la nouvelle guerre froide, avec le dossier de l'islamisation des sociétés ouvertes.
Alors vous nous dites et vous écrivez dans votre ouvrage que nous avons commis une erreur dans la désignation de l'ennemi. Alors c'est sûr, nous évoquons souvent cette question de désignation de l'ennemi. Vous nous dites aussi que ces problèmes d'hostilité, parce que le terme crucial c'est vraiment celui-ci, l'hostilité, s'accompagne naturellement d'amitiés problématiques. Vous avez commencé à le mentionner. Quelles sont justement ces amitiés problématiques selon vous ?
Alors avant même les amitiés problématiques, mais je vais y répondre, ce qui est très intéressant c'est la définition de l'ennemi. Une des dérives opérées notamment par ceux qui aiment les idées de George Soros, mais aussi de ce pan-démocratisme très cher au Parti démocrate américain et un petit peu à la famille Clinton, tous ces interventionnistes, mais aussi aux néo-conservateurs, ce serait que l'ennemi serait celui qui viole les droits de l'homme chez lui, qui ne respecte pas la démocratie, et donc il y a tout un état de, vous savez, tout un ensemble de rogue states qui avait été défini par les néo-conservateurs.
La posture moraliste.
Et c'est absolument la posture moraliste, et c'est le contraire d'un ennemi. L'ennemi n'est pas celui qui ne pense pas comme vous, qui viole les droits de l'homme chez lui, ou qui ne respecte pas la démocratie libérale telle qu'on l'entend en Occident, et même, c'est même pas le dictateur tout court. L'ennemi, c'est celui qui concrètement projette de mettre en danger votre population, où est votre territoire, où et vos valeurs fondamentales, les trois composantes d'une entité géopolitique ou politique, hein, territoire, population, gouvernement, et le gouvernement est sous-tendu bien sûr par des valeurs fondamentales. Celui qui vient tuer nos concitoyens chez nous sur des terrasses ou jusque dans leurs baignoires ou dans leurs églises, ça c'est un ennemi. Celui qui vient revendique notre territoire, comme c'est le cas des partisans du califat, qui veulent un territoire mondial, leur Lebensraum est universel. Ils veulent étendre leur ordre politico-théocratique à l'ensemble de l'humanité. Donc ils menacent à la fois notre population quand ils viennent abattre des citoyens chez nous, mais notre territoire qu'ils revendiquent ouvertement dans un projet néo-impérial irrédentiste, et bien sûr nos valeurs fondamentales qu'ils sapent, là de manière pas uniquement terroriste, hein, les valeurs fondamentales de nos sociétés ouvertes sont sapées de manière tout à fait officielle par des gens que nous considérons, et là je réponds à votre question, nous les considérons comme des alliés ou des amis, les pays du Golfe, la Turquie, le Pakistan, les frères musulmans, la Ligue islamique mondiale qui est très officielle, l'organisation de la coopération islamique, tout ça c'est les pôles, je dirais, officiels, respectables de l'islamisme, et ces pôles de l'islamisme radical, en toute liberté, en toute légalité, avec même parfois des financements publics, viennent chez nous saper nos propres valeurs, et essaient d'embrigader une partie de notre population dans une logique, comme l'a dit Hollande lui-même, de type partitionniste. Ce qui est inédit. Pour la première fois, une puissance forte, l'Occident est quand même très fort, très puissant, militairement, stratégiquement, est en train d'œuvrer à sa propre éviction de l'histoire et de la géopolitique en aidant ceux qui projettent pourtant, sans même se cacher, de la convertir, de l'islamiser, de la conquérir. C'est assez extraordinaire.
Alors nous avons donc une amitié problématique avec les pays que vous avez mentionnés, mais aussi plus à l'ouest, dans l'extrême occident, l'Amérique, comment fait-elle le jeu de ces pays-là? Comment peut-on tirer notre épingle du jeu aussi avec l'Amérique qui est censée être notre ami, notre allié?
Absolument. L'Amérique est censée être notre ami et notre allié, et j'y tiens particulièrement. Je pense que l'Occident, ce que j'appelle le pan-Occident ou l'alter-Occident, parce qu'il y a deux définitions d'Occident. Il y a l'Occident stratégique et droit de l'hommiste et économique et libre-échangiste, c'est l'Occident qui est un petit peu déraciné, qui n'est plus l'Occident judéo-chrétien. Et il y a le vrai Occident, que j'appelle pan-Occident ou alter-Occident, qui inclut autant la Russie que l'Amérique et l'Europe. Cet Occident-là est en danger par des alliances problématique. Et l'Amérique est responsable, mais elle n'est que co-responsable. Il ne faudrait pas non plus déresponsabiliser les Européens en faisant croire que le comploteur, le méchant qui est en train de saper nos fondements de nos propres sociétés judéo-chrétiennes seraient les Américains, par leur alliance avec l'islamisme depuis la guerre froide, et les Européens ne seraient que des victimes. Les Européens sont partie prenante de cette stratégie anti-russe, pro-islamiste. Sont partie prenante. Et l'Amérique elle-même ne veut pas de Troisième Guerre mondiale avec la Russie. C'est un mythe, c'est faux. Des deux côtés, il y a des exagérations. Il y a beaucoup de théâtre. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que... Et l'Amérique a raison de le faire de son point de vue. L'Amérique veut continuer à dominer l'humanité. Et à dominer essentiellement l'Eurasie. et à empêcher le heartland russe de dominer cette Eurasie, en pérennisant une fracture entre le poumon ouest et le poumon slavo-orthodoxe russe. Pour cela, il faut mettre en évidence le danger de la Russie en permanence. Mais les Américains savent très bien eux-mêmes que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas un danger russe qui serait imminent et l'ogre russe voudrait envahir toute l'Europe de l'Ouest. Ils savent très bien que c'est faux. Même, en fait, ils ont à l'intérieur de l'OTAN des jusqu'au boutistes comme les pays baltes, comme la Pologne, qui œuvrent eux-mêmes à une extension de l'empire américain et à une intensification de la dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'OTAN. Donc l'Europe est partie prenante de sa propre éviction de l'histoire et du fait qu'elle est sous le joug de cet empire américain. Donc je n'accuse pas l'Amérique en tant que telle, j'accuse plutôt la volonté d'impuissance européenne. L'Europe est très divisée entre certains États comme l'Italie, bien entendu la Hongrie, qui sont pour un rapprochement avec la Russie, et d'autres États européens, que ce soit les Anglais ou les nouveaux entrants, pays baltes, Roumanie, etc., qui eux, ou Pologne, sont encore plus américains que les Américains. Eux, ils veulent que l'Europe soit synonyme de OTAN, et pour eux, l'Europe, ce n'est que endiguer la Russie. Donc vous voyez, ce n'est pas que l'Amérique, les Européens qui sont anti-russes, revanchards, et qui ne sont pas que des agents de l'Amérique, ils ont leur propre agenda. Poussent énormément. Vous savez que certains stratèges de l'OTAN américains disent, parfois ils vont trop loin. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Trump. Trump, qui n'est pas ma tasse de thé, parce qu'il fait beaucoup d'extrémisme et d'erreurs. Mais par contre, ce qu'il dit de vrai, c'est que il y a des États européens qui nous poussent à la guerre avec la Russie et qui sont irresponsables et qui feraient mieux de penser à la survie de l'Europe plutôt que à utiliser l'OTAN et l'Amérique pour faire la guerre contre la Russie. Certains États de l'Union européenne sont beaucoup plus anti-russes que l'Amérique elle-même. Et l'Amérique, comme vous le voyez, elle est partagée, puisqu'il y a presque la moitié des Américains qui s'apprêtent à voter pour un candidat qui est pour un rapprochement inouï, inattendu avec la Russie. Donc la société américaine est très, très tiraillée.
Toujours en effet été tiraillé. Passons au pôle de l'islamisme que vous avez mentionné. Alors c'est sûr, l'islam est pour le moins difficile à circonscrire. Vous semblez avoir une vision très large justement de cet islamisme, de nombreux États, de nombreux mouvements, etc. Que mettez-vous derrière cette étiquette d'ennemi?
Ce que j'appelle l'ennemi, tout d'abord, ce n'est pas celui qui n'est pas comme nous. C'est-à-dire que le fait qu'en Qatar ou qu'en Arabie Saoudite il y ait la charia, en soi, pour moi, ne constitue pas une inimitié. Parce que on peut pas donner des leçons de morale à tout le monde. Et s'il y a des gens qui veulent vivre sur la charia, on n'a pas, à la limite, à aller leur imposer un système qui est le nôtre. Par contre, l'ennemi, c'est celui qui vient dans notre précaré, dans notre territoire, sur notre population, saper nos valeurs fondamentales et nos intérêts. Chez nous. Alors ça, c'est un ennemi. C'est la définition même de l'ennemi. Or, le Qatar aide un certain nombre d'organisations, soit ce que j'appelle l'islamisme hard, donc le terrorisme. C'est un des plus grands financiers du terrorisme avec l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Koweït. Ces États sont des ennemis objectifs, puisqu'ils financent des terroristes qui s'en prennent à nos populations. Mais ces États sont également des ennemis, même lorsqu'ils financent et appuient, ou ils forment, les pôles, ce que j'appelle de l'islamisme soft, ou plutôt les pôles institutionnels de l'islamisme. Il y a l'islamisme radical, qui n'est que la face immergée de l'iceberg, le pôle terroriste, mais qui ne représente qu'une petite minorité. Et il y a les frères musulmans, les salafistes quiétistes, il y a les organisations turques comme le Milli Gurush, etc., et toutes les organisations pakistanaises qui ressemblent un peu aux frères musulmans. Vous savez, il y a toute une panoplie d'organisations islamistes qui œuvrent de manière démocratique, officielle, en Europe, à l'islamisation de nos sociétés, qui embrigadent nos concitoyens musulmans en distillant chez eux une mentalité paranoïaque dans le but de faire une sécession, à terme, d'avoir des sociétés séparées, une sorte de limès intérieur, pour qu'il y ait une fracture au sein des sociétés européennes, pour qu'il y ait des espèces de mini-États islamiques un jour qui naissent. Et cette stratégie-là, qui passe par la légalité, puisque c'est la Ligue islamique mondiale, financée par l'Arabie saoudite, vous savez qu'il y a son siège à Bruxelles et à Mantes-la-Jolie, c'est l'organisation de la coopération islamique, qui réunit 57 États musulmans tout à fait officiels, ces organisations prosélytes, qui écrivent noir sur blanc qu'elles veulent islamiser l'Europe, ou alors, parlons aussi des frères musulmans ou des Milli Gurush turcs, ces grandes organisations qui ont pignon sur rue chez nous, qui gèrent de très nombreuses mosquées, elles ont un projet irrédentiste. Et je vais jusqu'au Maroc. Le Maroc, qui est le président qui préside, qui est l'institution fondamentale aujourd'hui, enfin leader du Conseil français du culte musulman. Le Maroc comme la Turquie sont des pays qui sont pas souvent désignés comme des pays islamistes radicaux, parce qu'ils ont un côté un peu pro-occidental ou démocratique comme la Turquie, mais eux-mêmes, ces pays-là œuvrent à l'islamisation de nos concitoyens en promouvant des valeurs sur notre sol qui sont opposées aux nôtres. Par exemple, le Maroc, qui paraît modéré, dans son article de son code civil 222 et 220, interdit toute forme de liberté religieuse. Toute personne qui est née musulmane au Maroc, qui est convertie au christianisme ou qui devient athée ou qui ne respecte pas le ramadan, peut être emprisonnée. Et c'est ce pays-là qui dirige l'islam en France et en Europe, comme la Turquie, qui interdit toute liberté de conscience. On ne peut pas devenir chrétien quand on est musulman en Turquie. Et pourtant, ces pays nous traitent d'islamophobes et financent un certain nombre de centres islamiques, de mosquées, qui sont en fait plus proches des valeurs de l'Arabie Saoudite et de l'OCI, l'Organisation de la Coopération Islamique, que de nos propres valeurs. Donc on voit bien que même des États qui ne sont pas des islamistes radicaux officiellement adhèrent globalement à un projet irrédentiste, néo-impérial, d'islamisation du monde, qui est totalement opposé à nos valeurs. Que les musulmans puissent prier, c'est tout à fait normal. Dans des mosquées d'Inde, c'est tout à fait normal. Mais que des États utilisent le droit à la liberté religieuse pour en fait monter contre les sociétés d'accueil tout un pan, des pans entiers de la population, notamment les personnes qui sont musulmanes ou qui sont réislamisées, ceci constitue la définition même d'un acte d'un ennemi. L'ennemi, c'est celui qui veut monter contre vous une partie de votre population, qui veut prendre une partie de votre territoire et qui dénonce vos valeurs, non pas chez lui, il a le droit, mais sur votre propre sol. C'est exactement la définition d'un ennemi. Donc il est temps que l'Europe reprenne en main son islam, qu'elle produise un islam autochtone, parce qu'on ne peut pas empêcher les musulmans de prier, bien entendu. Ils ont tout à fait le droit.
Oui, donc vous restez un peu optimiste, vous pensez encore à l'assimilation, l'intégration, vous y croyez encore.
Regardez la Russie. Un des exemples, c'est la Russie ou l'Argentine. On parlait tout à l'heure.
Les circonstances historiques sont quand même assez différentes.
Certes, mais ce qui est possible quelque part peut l'être ailleurs. Si en Argentine on a réussi, il n'y a pas que des Arabes chrétiens en Argentine. Il y a des Arabes qui sont musulmans d'origine. Si l'Argentine a réussi à intégrer de très nombreux musulmans qui sont devenus des très bons citoyens.
Quelle quantité ?
Pardon ?
Vous
savez que les Libanais et les Syriens et les Palestiniens en Amérique latine sont plusieurs millions, ils sont une dizaine de millions. En Argentine et au Brésil, c'est une très très grosse communauté. À mon avis, au moins aussi importante que la communauté maghrébine chez nous. Donc c'est tout à fait comparable. Et par un autre exemple, la Russie. À part les Tchétchènes, les Ingouches et les musulmans du Caucase, qui posent un problème, mais qui est lié aussi à l'histoire et au nationalisme, et pas qu'à l'islam. Les musulmans tatars en Russie, au moins les trois quarts d'entre eux, sont de très très bons Russes, très très bien intégrés. Les Russes eux-mêmes, d'ailleurs Poutine le dit très souvent, nos musulmans tatars sont des Russes tout à fait aussi patriotes que les autres et nous n'avons pas de problème. La Russie donc a en son sein 15 à 20% de personnes qui sont d'origine musulmane, tataro-musulmane, et qui sont relativement bien intégrées, si on met l'exception de la Tchétchénie. Donc c'est possible. Nous avons l'islam que nous méritons. Pourquoi on a un islam de plus en plus partitionniste, comme l'a dit le rapport de l'Institut Montaigne, hein, où 30% des musulmans français se sentiraient tout à fait opposés à nos valeurs. C'est parce que nous avons laissé les pôles de l'islamisme radical venir saper nos fondements, les fondements de nos valeurs dans notre société, et on a laissé ces pôles embrigader nos propres concitoyens, ce qui est une véritable trahison d'éclair, une nouvelle trahison d'éclair, pour reprendre l'expression de Julien Benda.
Alors comment vaincre cet ennemi, justement? Il est quand même, comme je le disais, vous dressez quasiment l'ensemble du monde arabo-islamique contre l'Occident.
Non, justement, c'est pas ce que je fais. Je montre que le monde arabo-islamique est lui-même très divisé. Regardez aujourd'hui les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Algérie sont contre le renversement de Bachar al-Assad. Les Émirats arabes unis et l'Égypte, quand même le plus grand pays arabe, l'Égypte avec le général El-Sissi, font la guerre aux islamistes en Libye que nous soutenons. Enfin, pas la France. La France, elle est pas trop mal sur la Libye. Mais en Libye, les Anglo-Saxons soutiennent carrément les forces islamistes de l'Ouest et c'est la Russie avec l'Égypte et les Émirats arabes unis qui aident les forces du général Haftar qui est laïque. Donc c'est plus compliqué que cela. Un certain nombre de pays parmi les plus puissants du monde arabe, comme l'Algérie ou l'Égypte, sont en guerre totale contre l'islamisme. Il est plus facile...
Donc diviser pour mieux régner.
Il est plus facile d'être islamiste aujourd'hui dans de nombreux pays occidentaux pluralistes qui ont dévoyé leurs propres valeurs pluralistes que dans certains pays arabes. Aux Émirats arabes unis, les frères musulmans sont totalement interdits. Je ne sais pas si vous le saviez, mais La présence des frères musulmans est absolument interdite. On n'a pas le droit d'être un frère musulman militant en Arabie Saoudite. Mais par contre, on peut le faire à Mantes-la-Jolie ou à Bruxelles, et même aidé par les États. Vous savez que l'État français a donné un terrain aux frères musulmans à Château-Chinon il y a des années, sous Mitterrand, pour former les imams européens. Et c'est un monsieur qui fait des fatwas pour tuer les juifs et les homosexuels et qui dit qu'il faut un jour conquérir Rome, que l'Europe doit être islamisée, Qardaoui, qui est le patron de la formation des imams européens. Et ça a été appuyé par l'État français. L'État français a donné une partie de sa communauté musulmane à des pôles qui ont ouvertement écrit noir sur blanc qu'ils veulent conquérir l'Europe. Donc on voyait bien que la responsabilité première, c'est pas le musulman de base qui vient pour manger, qui est venu à l'époque des années 70 en fuyant son bled, qui avait un islam très superstitieux mêlé de maraboutisme. Celui-là, il est pas venu avec une théorie de conquête. Non, c'est ceux qui l'ont embrigadé, qui essaie de le monter contre la société d'accueil. Donc la responsabilité de nos États, et c'est tout à fait possible, c'est de responsabiliser les alliés, les pseudo-alliés, qui sont en fait des ennemis, des pays du Golfe. On peut pas rompre les relations diplomatiques avec tout le monde. On peut pas empêcher ces pays d'appliquer la charia chez eux. Par contre, nous avons le droit, et ils le comprendraient parfaitement, de leur dire, faites ce que vous voulez chez vous, mais chez nous, vous ne pouvez pas développer des idées et embrigader des citoyens contre les valeurs d'accueil de notre pays. Nous n'allons pas faire du prosélytisme chrétien croisé chez vous. Et c'est possible, je me rappelle, Charles Pasqua l'avait fait. Charles Pasqua, quand il était ministre de l'Intérieur, avait exigé de ses homologues saoudiens qu'ils cessent tout financement des mosquées salafistes. Et ça avait marché. Il n'y avait pas eu d'embargo, de choc pétrolier. Ça avait parfaitement marché. Ça veut dire que nos hommes politiques sont encore pires que ce que l'on croit. Ils n'ont même pas fait quelque chose qui est tout à fait possible, que ces pays même pourraient comprendre. Mais d'un autre côté, quand vous êtes un pays islamiste, vous essayez. C'est normal, un religieux qui est prosélyte, il va essayer d'avancer ses pions. Si on ne lui dit même pas d'arrêter, si on ne lui fixe pas des limites, il a raison d'essayer. Donc le vrai responsable sont nos dirigeants qui laissent faire ces pays sur notre propre sol.
Alors du Proche-Orient, du Moyen-Orient, vous passez à l'Ukraine et à la Crimée, pourquoi lier les deux?
Oui. Ah ben, il y a un énorme lien en Crimée. Qu'est-ce qui s'est passé en Crimée? Toute cette stratégie de l'Occident qui vise à considérer la Russie toujours comme l'ennemi. Cette stratégie, elle s'est traduite par des guerres opérationnelles tout à fait offensives, comme en Irak ou en Libye, où on a depuis les années 90, où on a affaibli des alliés de la Russie. Mais là, où on ne pouvait pas faire la guerre directement, on a utilisé une autre forme de guerre, les fameuses révolutions de velours, qui sont d'ailleurs mises en œuvre par des anciens militaires très souvent, qui savent que c'est une guerre par d'autres moyens que la guerre. Et on a voulu affaiblir la profondeur stratégique de la Russie dans son précaré, son étranger proche, en Géorgie, vous connaissez l'histoire, en Ukraine. Cela a abouti au raidissement et aux réactions tout à fait prévisibles de la Russie, qui se sent trahie par l'Occident, à qui pourtant, il faut le répéter, Poutine était un occidentaliste. Poutine a voulu tendre la main à la Russie, pas uniquement Yeltsin.
À
l'Europe et à l'Amérique. Poutine, dès qu'il est arrivé au pouvoir, l'hiver 99-2000, premier ministre par intérim, puis par la suite président, tout de suite, il a voulu tendre la main à l'Occident, se rapprocher de l'OTAN, de l'Union Européenne, et systématiquement, les Américains ont répondu par des fins de non-recevoir, ou carrément des agressions indirectes ou directes, comme les guerres contre les alliés de la Russie, ou les révolutions de velours. Donc c'est pour ça que je lis les deux. La guerre en Ukraine, elle avait pour but finalement de faire basculer, enfin la guerre symbolique, hein, les révolutions de velours, faire basculer l'Ukraine dans le camp occidental. Pourquoi ? Pour faire perdre à la Russie sa base stratégique dans les mers chaudes de la mer Noire. De même que l'idée de renverser Bachar el-Assad avec le printemps arabe, c'était aussi faire perdre à la Russie une de sa seule base en Méditerranée. Donc c'était une agression directe contre les intérêts de la Russie, et je pense que nous n'avions aucun intérêt à pérenniser ce rollback, la fameuse stratégie sous la guerre froide qui visait à refouler la Russie. Je pense pas que ça soit nécessaire. Au contraire, nous avons tout intérêt à coopérer avec la Russie, qui serait un fournisseur d'énergie, et mieux vaut avoir un fournisseur d'énergie européen qui partage nos valeurs civilisationnelles qu'un fournisseur d'énergie comme l'Iran, comme le veulent les eurocrates de Bruxelles. Vous savez que les eurocrates de Bruxelles, ils veulent qu'on ait plus d'énergie en provenance des pays turcophones musulmans, et puis l'Iran et l'Irak. Leur grand projet, qui était traduit par le fameux Nabucco à l'époque, c'était moins de dépendance envers la Russie, plus envers les pays musulmans, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes et de déstabilisation dans les pays du Moyen-Orient.
Pourtant, un rapprochement avec la Russie s'accompagnerait d'un rapprochement avec l'Iran.
Pas forcément, parce que la géopolitique, elle est pas manichéenne. Vous savez, les États ont des intérêts et leurs propres alliés le savent. Vous pouvez être allié de quelqu'un qui a des intérêts communs, mais ne pas partager certaines de ses alliances à lui. C'est tout à fait normal en géopolitique. La géopolitique, c'est pas je suis avec un tel uniquement si lui-même n'est pas avec un tel. C'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus pragmatique. Et donc, regardez l'accord récent entre Israël et la Turquie, ou le rapprochement Turquie-Russie. Ils ont des intérêts divergents sur certaines zones, mais momentanément, dans certains endroits, leurs intérêts convergent. Mais ça ne veut pas dire que regardez Israël et Turquie, ils n'ont pas le même par rapport à l'Iran, ils n'ont pas du tout la même vision. Par rapport à l'Amérique, ils n'ont pas la même vision. Ils ont beaucoup de divergences, mais momentanément, ils ont trouvé que c'était utile de coopérer à nouveau et de se rapprocher, de même que après la brouille, la Russie et la Turquie. Donc voilà, je pense que la géopolitique, elle est beaucoup plus souple qu'on le croit. On a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on le croit. Et la grande erreur de nos hommes politiques, c'est de croire qu'on ne peut rien faire contre le prosélytisme salafiste. Apparemment, Hollande est tout à fait conscient des problèmes. Mais il a l'air de dire, l'islam est un problème, le salafisme est un problème, c'est vrai que c'est très grave. Mais en gros, on a l'impression qu'il est conscient, mais il pense qu'il n'y a pas de solution. Mais si, on pourrait parfaitement dire à tous les États qui produisent de l'islamisme radical et aux grandes organisations, comme la Ligue islamique mondiale, qui a son siège à Mantes-la-Jolie, on pourrait dire à ces organisations, si vous ne signez pas une charte qui vous oblige de vous soumettre à nos valeurs fondamentales, vous n'avez plus le droit de citer chez nous. Faites ce que vous voulez chez vous, mais chez nous, non. Un État a le droit de faire ça. Il le fait. La Turquie le fait. Avec les chrétiens, par exemple, la Turquie a banni tout prosélytisme chrétien. Faisons la même chose avec le prosélytisme islamiste qui est contraire à nos valeurs. Et on ne laisserait en place en France que des pôles musulmans qui adhéreraient à nos valeurs. Comme par exemple les Tatars en Russie, qui adhèrent à un islam souvent soufi, qui est tout à fait opposé au wahhabisme, et qui respecte la suprématie des valeurs russes orthodoxes, tout en étant une église reconnue. C'est tout à fait possible. Je parlais de l'Argentine tout à l'heure. Il y a beaucoup de pays qui le font.
Donc plus de pragmatisme, moins de manichéisme avec Alexandre Delval. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Les vrais ennemis de l'Occident, du rejet de la Russie à l'islamisation des sociétés ouvertes », tout juste paru aux éditions L'Artilleur. Alexandre Delval, merci beaucoup.
Merci à vous.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.